Dimanche 3 décembre 1978. Dixième leçon de catéchisme pour adultes par M. l'abbé Montarien en la chapelle polonaise rue Saint-Honoré à Paris.
Alors j'ai intitulé mon cours aujourd'hui La promesse d'un sauveur. C'est un peu décousu, mais ça n'en sera que plus intéressant. Alors tout d'abord, quelques petites précisions concernant le vocabulaire. Nous employons des mots couramment sans peut-être savoir ce qu'ils veulent dire. J'ai énuméré ici Messie, Christ, Jésus, Patriarche, Prophétie, Prophète. Et j'ai ajouté, pour que ce soit plus luxueux, le prophète roi. Alors que veut dire Messie? Que veut dire Christ? Ces deux mots-là veulent dire la même chose. Mais nous n'employons pas la même langue dans un cas comme dans l'autre. Messie, c'est de l'hébreu. Christ, c'est du grec. Et dans les deux cas, cela veut dire... Alors, comprenez-vous, parce que en français, ce n'est pas beau, comme mot, ce n'est pas euphonique. Cela veut dire « oint ». O-I-N-T. C'est le participe passé du verbe « oindre ». Autrement dit, le Christ, c'est quelqu'un qui a reçu une onction. Il y a des quantités de Christ dans l'Ancien Testament. Par exemple, on dit à plusieurs reprises du roi David qu'il est le Christ du Seigneur. Il est loin du Seigneur. C'est lui qui a reçu l'onction. En hébreu, donc, c'est Messie. En grec, c'est Christ. Qui recevait une onction dans l'Ancien Testament? Eh bien, les rois. Je viens de vous parler du roi David, là. On donnait l'onction au roi. Les prêtres, également. Il y a un psaume qui est le psaume « Ecce quam bonum et quam jucundum » qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. C'est un psaume sacerdotal. Il s'agit des prêtres de Jérusalem qui avaient plaisir à se retrouver. Et comme ces prêtres avaient reçu l'onction, dans le psaume il y a question d'huile. Le psaume poursuit en disant « Il est bon, il est agréable de vivre ensemble, c'est comme une huile parfumée qui tombe depuis la tête d'Aaron, le grand prêtre, jusqu'à sa barbe. » Et c'est répété deux fois. « Usque ad barbam, barbam Aaron. » Quand on récite ça au cœur, on peut être pris par le fou rire. Ça m'est arrivé une fois au grand séminaire, on le rappelle. C'est barbam répété. Donc les prêtres étaient oint. C'était des Christ. Les prophètes également recevaient une onction. Vous vous rappelez l'histoire de... Non, ce sont pas les prophètes, là, c'est le roi David. L'histoire de Samuel. Samuel, qui aimait beaucoup le roi Saül, mais qui apprit de Dieu que Saül avait été rejeté. Et Dieu lui dit, va donc à Bethléem. Et là, je te montrerai, dans la famille de Jessé, celui que j'ai choisi. Samuel se rendit à Bethléem, et Jessé fit défiler devant lui tous ses fils. Il y en avait 7 ou 8, je ne sais plus. Tous aussi beaux et aussi forts les uns que les autres. Mais chaque fois qu'un des fils paraissait devant Samuel, Dieu lui disait, ce n'est pas celui-là que je choisis. Et puis finalement, Samuel dit à Jessé, tu n'as plus de fils? L'autre lui répondit, non, j'en ai plus, si j'en ai un, mais un tout petit, il est tout jeune. Il est en train de garder les troupeaux. Va me le chercher. Et David parut devant Samuel. Alors Samuel comprit. Il sortit de sa ceinture une corne qui contenait de l'huile et répandit cette huile sur la tête du Christ. Donc, Christ, Messie, c'est pareil. Hein? Jésus est prêtre, prophète et roi. Le tout par excellence. Jésus, vous savez ce que ça veut dire parce que je le répète sans arrêt. Ça me paraît très très important. Jésus veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. C'était un nom assez commun. Chez les Hébreux puis chez les Juifs, avec des prononciations diverses. Par exemple, Josué. Josué et Jésus, c'est la même chose. C'est que nous ne sommes pas en français très fixés sur les voyelles hébraïques, car les Hébreux ne notaient que les consonnes. Et nous avons traduit différemment Josué d'une part et Jésus de l'autre. C'est le même nom, un nom assez courant. mais le seul qui soit vraiment Dieu sauve, Dieu sauveur, c'est le nôtre, n'est-ce pas ? Patriarche, eh bien c'est un vieux, hein, c'est un père. Prophétie, dans le français que vous employez et que j'emploie, c'est une annonce de l'avenir. Un prophète, ça n'est pas forcément quelqu'un qui annonce l'avenir, par contre. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et je trouve que les prophètes ont fait pas mal de prophéties, et c'est pourquoi on les appelle des prophéties, mais un prophète ne dit pas forcément l'avenir, il peut parfaitement dire des choses toutes présentes. Par exemple, en ce moment, je me comporte comme un prophète, je ne dis pas l'avenir, dont je ne sais absolument rien. David, dont je parlais tout à l'heure, est appelé couramment le prophète roi. Ça, c'était le vocabulaire. Ensuite, j'ai noté ici, j'ai pris un papier pour une fois, promesse d'un rédempteur. Promesse d'un rédempteur. La première promesse, vous la connaissez parce que nous en avons parlé la dernière fois. C'est ce qu'on appelle le protévangile. C'est annonce qui s'est faite à nos premiers parents. Je mettrai une haine entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Tu la meurtriras au talon et elle t'écrasera la tête. Voilà la première promesse. La deuxième promesse un peu précise, j'y ai fait allusion tout à l'heure devant les enfants, pendant la messe. C'est la promesse faite à Abraham. Elle est finalement assez précise. Dieu promet à Abraham une nombreuse descendance, ce qui peut être pris au sens le plus physique possible du mot. Mais Dieu ajoute, toutes les nations se trouveront bénies par elle. Et il semble, quand on regarde le texte d'un peu près, qu'il s'agit d'un personnage plutôt qu'une descendance en général. Et au fur et à mesure que les siècles passent, les siècles qui ont précédé le Christ, les promesses se précisent. On sait par exemple, c'est la bénédiction de Jacob à ses fils, que le Messie naîtra de la tribu de Judas. Et puis, plus précisément encore, David apprend que le Sauveur naîtra de lui. Et les Hébreux comprenaient fort bien tout cela. Ils savaient que le Messie serait un fils de David. Vous vous rappelez le cri de l'aveugle de Jéricho. « Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Pourquoi fils de David ? Tout simplement parce qu'il le prend pour le Messie. Il le reconnaît comme tel. On savait que ce serait un fils de David. Et puis ensuite, il y a eu les prophètes. Alors je ne peux pas entrer dans le détail, d'abord parce que j'en suis incapable, et puis parce qu'il y a trop de choses. Vous vous rappelez que quand les mages arrivèrent à Jérusalem, ils allèrent trouver Hérode et demandèrent où doit naître ce roi qu'attendent les Juifs. Hérode, qui n'en savait rien, fit venir les spécialistes de la question, c'est-à-dire les scribes. Et les scribes répondirent sans hésiter, le Messie doit naître à Bethléem. C'est ce qu'annonce le prophète Michée. Et voilà des savants qui savent tout, mais qui n'adhèrent pas à ce qu'ils savent. Ça ne les intéresse pas, apparemment, n'est-ce pas ? On savait donc que le Messie naîtrait à Bethléem. Il serait fils de David, il naîtrait dans la ville de David, à Bethléem. On savait aussi, mais cela, on s'arrangeait pour ne pas trop le savoir, qu'il souffrirait énormément, qu'il serait innocent de ce dont on l'accuserait, et qu'il mourrait au milieu de souffrances atroces réellement, on savait cela, qu'il serait la honte, le rebut de l'humanité, c'est dans le livre d'Isaïe, c'est tout clair. Et puis dans le livre de Zacharie, les questions d'un crucifié mystérieux, qui est là, sur la croix, tout y est fait. C'était les promesses, là. Autre question, ou autre petit sujet, pourquoi un rédempteur ? Pourquoi cela ? Pourquoi un rédempteur ? Nous avons une remarque à propos de la grandeur de la faute. Vous savez ou ne savez pas qu'une faute est plus ou moins grave en elle-même, mais qu'elle est aussi plus ou moins grave selon l'importance, selon la dignité de l'offensé. Si je vous dis zut, ce n'est pas bien, mais si je dis zut au président de la République, j'aurai des ennuis. J'en aurai davantage, tout au moins. Et pourtant, c'est le même péché. C'est un tout petit péché, hein. Dans les deux cas. Donc, la personnalité de l'offensé est importante. Le péché de nos premiers parents et les péchés qui se sont commis ensuite sont fort laids parce qu'ils sont des offenses à Dieu. Comment réparer cela? Comment réparer cela? C'est impossible. Il faudrait un rédempteur, un racheteur, pour parler clairement mais mal, il faudrait un rédempteur qui soit aussi digne que Dieu, ça n'existe pas. Dieu aurait pu s'arranger autrement. Il aurait pu pardonner par bonté, comme ça, par pure bonté. Il aurait été infiniment bon. Il aurait passé sur la justice, par contre. Il aurait pu aussi être infiniment juste, en détruisant l'homme et sa race. Mais la bonté en aurait pris un coup. Comme Dieu est infiniment bon et infiniment juste, et par-dessus le marché infiniment inventif, il a trouvé cette solution que vous connaissez et dont nous profitons tous. J'aimerais que vous remarquiez à ce propos, vous rappelez, je vous avais dit au début de l'année le plus grand signe de crédibilité, c'est la cohérence de la révélation. Qui est-ce qui serait allé inventer une chose pareille sinon Dieu? Je veux dire l'incarnation. Le fait que le Fils de Dieu se fasse homme. Jésus est Dieu et homme. Et quand il répare, par sa vie, par ses souffrances, par sa mort sur la croix, c'est l'homme qui répare. Et c'est l'homme qui avait péché. Et c'est Dieu qui répare. Et le Père est satisfait. Satisfaction entière. C'est très ingénieux, vous savez. C'est ça qu'on appelle un signe de crédibilité, si vous voulez. Qui serait allé pêcher une histoire pareille? Qui serait allé inventer cela? Dieu, tout simplement. Et la bonté infinie de Dieu et sa justice non moins infinie se trouvent parfaitement d'accord en cette affaire de la rédemption. Question suivante. Pourquoi Dieu fut moins sévère pour l'homme que pour l'ange? L'ange a été... Non, je parle des anges coupables, des anges rebelles, bien sûr. Les anges rebelles ont été précipités dans l'enfer pour un seul péché, dont nous ne connaissons pas le détail. Y a-t-il des détails chez les anges? Il n'y en a pas. Les anges sont des créatures sans détails. Chez nous, il y a des détails. Je ne perds pas mon temps en vous disant tout cela. C'est pour faire saisir les différences. Il y a des détails. Certains d'entre vous ont les yeux bleus, d'autres ont les yeux noirs. Il y a des filles, il y a des garçons. Et puis, il y a des êtres intermédiaires, comme les prêtres. Il y a des barbus qui rigolent. Et puis, il y en a d'autres qui rigolent, mais qui ne sont pas barbus. Il y a des quantités de différences. Mais ce n'est pas comme chez les anges, où tout est parfaitement simple. Vous comprenez bien que notre nature, notre qualité d'esprit incarné comporte à la fois ses servitudes et ses privilèges. C'est pas un privilège, parce qu'un privilège c'est une loi privée. Ses servitudes et ses bons côtés, disons. Je vais vous dire déjà que notre histoire, c'est à propos des anges que je vous l'avais dit, que notre histoire tient parce que nous avons un corps. C'est notre corps qui fait que le temps s'écoule. Simplement parce que je me suis levé à telle heure et puis je me coucherai à telle heure. Entre temps, la température a varié. J'ai mangé parce que j'avais faim, puis je n'ai plus eu faim après avoir mangé, n'est-ce pas? Il y a 15 jours, j'avais un rhume. Il commence à s'arranger sérieusement, voyez-vous. Nous avons une histoire qui tient à notre corps. Nous avons commencé, nous finirons. Les années passent. Chez les anges, non. Les anges sont tous d'une pièce. Ils sont tout bons ou tout mauvais. Chez vous et moi, il y a du bon et du mauvais, dont Dieu seul connaît la proportion. Dieu seul, n'est-ce pas? Alors quand un ange pêche, eh bien c'est sans rémission. C'est une première cause. Il est précipité en enfer, pour l'éternité, n'est-ce pas? Ensuite, eh bien, remarquons qu'Adam avait été la victime de l'ange déchu. Autrement dit, il a péché, mais quelqu'un lui a soufflé son crime. lui a soufflé de le commettre, c'est ça que je veux dire, n'est-ce pas? Personne n'avait aidé les anges. Ils s'étaient comportés en l'affaire comme de grands garçons. Voilà une expression hardie en ce qui les concerne. Car vous savez que les anges n'ont pas de sexe. On prétend que les théologiens du Moyen-Âge discutaient sur cette question, ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils étaient trop intelligents pour discuter sur une question réglée. C'est une légende. Donc Adam s'était vu inspirer son crime, les anges non. Et puis alors, Adam portait en lui une postérité, cette postérité qui est solidaire de sa faute, mais qui n'y a pas eu part. Nous n'avons pas commis le péché originel. Nous sommes nés dans l'état de péché originel, ce qui est différent, je vais m'expliquer, mais nous ne l'avons pas commis. Adam et Ève ont commis un acte et se sont trouvés ensuite dans un état, dans un mauvais état, avouons-le. Nous avons hérité de ce mauvais état, mais nous ne sommes pas coupables du péché originel. Nous n'avons jamais été coupables de cette faute que nous n'avons pas commise. Vous vous rappelez la comparaison que j'ai prise, je crois que c'est avec vous que j'ai prise. Quelqu'un a une fortune, il la perd bêtement, eh bien ses enfants n'en hériteront pas. Mais ses enfants n'ont fait aucune bêtise dans l'histoire. Ils naissent dans un état de pauvreté, simplement. Mais la bêtise, c'est le père qui l'a commise. Donc, il fallait tout de même une certaine miséricorde, une certaine possibilité de rémission. Il fallait cela. Adam portait en lui une postérité, solidaire de sa faute, mais qui n'y avait pas eu part. Autre question encore, les raisons du délai. Pourquoi est-ce que Dieu a attendu si longtemps avant d'envoyer son fils? C'est très mystérieux. Ça fait partie des raisons que Dieu seul connaît, mais nous pouvons tout de même essayer d'y voir un peu clair. Et c'est important parce que ça vous concerne tout directement. Je me suis souvent demandé pourquoi, je prends cet exemple, pourquoi j'ai réussi à cesser de fumer en 1968, c'était le 25 janvier. Je sais parce que j'ai compté les jours depuis, vous savez, je fais les jours en me disant combien de temps tu vas durer encore, combien de temps tu vas tenir le coup, et je tiens encore le coup, et je n'ai plus aucun mérite. Alors je sais que c'était le 25 janvier 1968. Mais je me suis toujours demandé pourquoi j'avais réussi à cesser ce jour-là et pas avant. C'est un bout de temps que j'essayais. Je prends cette affaire-là parce qu'elle n'est pas compromettante. Mais je pense à des quantités d'autres choses, vous savez. Le bon Dieu m'a guéri de bien des vices, de bien des défauts. Il en reste. Il en reste. Mais pourquoi à ce moment-là plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce que le Rédempteur est venu en l'an zéro ou autour, n'est-ce pas? Et non pas avant, ou plus tard. Il y a un moment pour tout. Eh bien, première réponse. Il fallait que l'homme apprît l'étendue de sa misère. Et cela ne s'apprend pas seulement dans sa tête. Je vous l'ai dit la dernière fois à propos d'autre chose. Il faut apprendre cela dans sa peau. Dans les vies des saints, c'est la même chose. Il y a des saints qui se convertissent très tôt, d'autres très tard, et puis d'autres qui n'ont pas à se convertir parce qu'ils ont toujours été saints ou pratiquement, n'est-ce pas? Mais pourquoi Saint-Augustin a-t-il attendu 35 ans? Je crois qu'il avait 35 ans ou quelque chose comme ça pour le convertir. Il y avait un bout de temps qu'il cherchait à le faire. Vous vous rappelez comment ça s'est passé? Ça s'est passé d'une façon assez curieuse parce qu'il n'y a pas de proportion entre entre l'événement et le résultat. Il a commencé par trouver la foi. Il n'était pas baptisé, il était catéchumène. Il s'était égaré dans des tas de sectes, des manichéens ou je ne sais quoi. Oui, c'était ça, n'est-ce pas? Il vivait avec une maîtresse. Finalement, les sermons de l'évêque Saint-Ambroise à Milan eurent raison de ses doutes. Il trouva la foi. Mais il y avait cette fameuse maîtresse. Sa mère insistait beaucoup. Il la renvoya, la pauvre. Je dis la pauvre parce que il y avait longtemps qu'ils étaient ensemble, et après l'avoir renvoyée, il ne se sentit pas la force de rester tout seul, il en prit une autre. Pourquoi je dis que, apparemment, il aurait pu garder la première, n'est-ce pas? En attendant. Et il n'avait pas la force de se séparer d'elle. Et puis, un beau jour, il était là dans un jardin, à Milan, vous savez. Et il y avait dans le jardin d'à côté un garçon qui jouait, ou une fille. Un garçon, je crois. Vous savez comment font les enfants? Ils sautent d'un pied sur l'autre, ils répètent toujours la même formule. Les psychologues vous expliqueront que c'est tout à fait normal à un certain âge, n'est-ce pas? Et alors, il y avait dans le jardin à côté un garçon qui faisait « Tolé, léjé, tolé, léjé », ce qui veut dire ça peut vouloir dire plusieurs choses, je crois. Ça peut vouloir dire « enlève », puis « attache ». Ça peut vouloir dire aussi « prends ». Lit. Prends, lit. Prends, lit. Prendre et lire, les deux verbes. Il y avait sur le siège, à côté d'Augustin, un rouleau, ou un volume, je ne sais pas, un volume c'est un rouleau, ou un codex, je ne sais pas ce que c'était, mais il ouvrit ce livre, c'était les épîtres de saint Paul, il tomba sur je ne sais quel passage, qui tout à coup le convertit, en ce sens qu'il eut la force de devenir le saint Augustin qu'il est devenu. D'un seul coup. Mais pourquoi à ce moment-là plutôt qu'un autre? Bien, première réponse, c'est comme pour la rédemption, parce qu'il fallait qu'il connaisse sa misère. Quand nous connaîtrons notre misère, mais vraiment, quand nous aurons compris à quel point ce n'est pas beau de pratiquer le vol à la tire, hein, nous aurons la force de cesser. Je dis cela parce que, je crois bien que parmi vous, personne ne pratique le vol à la tire. Hein? En anglais, ça se dit pickpocket, mais c'est en français, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Vous aurez la force, mais il faut avoir compris à une certaine profondeur que ce n'est pas beau. Alors, pensez à d'autres défauts qui sont plus réels et que vous avez, n'est-ce pas? Et dont il faudra absolument, avec la grâce de Dieu, vous débarrasser. Vous n'y parviendrez que quand il vous aura fait toucher du doigt votre misère et votre incapacité. Et puis aussi, il fallait que l'homme apprécia la grandeur du bienfait. Vous savez, quand on donne à un enfant trop de choses, eh bien, on en fait ce qu'on appelle un enfant gâté. Alors cet enfant gâté ne se rend même plus compte qu'on lui fait des cadeaux. Il trouve ça tout naturel, tout normal. Vous comprendrez mieux ce que je veux dire quand vous aurez essayé de vous représenter l'état moral du monde antique. C'est au-dessus de ce que nous pouvons imaginer. Le quartier où j'habite, c'est le paradis à côté. Mais c'était horrible. Si vous visitez un jour Pompéi ou bien Herculanum, vous comprendrez ce que je veux dire. Enfin, je ne donne pas de détails parce que nous sommes dans une église. Mais c'est absolument extraordinaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a des choses... il voit que ce sont des Italiens, alors ils jouent sur les sentiments pour mettre de l'intérêt, les guides qui vous font visiter. Il y a des choses que les dames n'ont pas le droit de voir. À Pompéi, par exemple. Je suis allé voir, moi, malgré ce que je disais tout à l'heure. Et j'étais avec un groupe de Suisses protestants, et... Oh, c'est pas du catéchisme que je vous raconte là. Et il y a des protestants qui se trouvaient là, des messieurs qui se trouvaient là, qui disent, mais comment, vous venez voir ça? Ben, je dis, je suis pas une dame. Je me suis mis un petit peu en colère, je lui ai dit tout à l'heure, là, quand on nous a dit qu'il fallait se déplacer au grand soleil pour aller voir la belle mosaïque. Qui est-ce qui est allé? C'est moi, pas vous, vous êtes resté à l'ombre. Alors je ne vois pas pourquoi je n'irai pas voir ce qu'il est permis aux hommes de voir. Enfin, c'est pour vous dire que le monde antique, c'était une pourriture. Une pourriture qui est au-dessus de ce que vous pouvez imaginer. Alors, les Hébreux étaient au courant de tout cela. Ils étaient moins pécheurs que les autres, ils étaient pécheurs quand même, mais ils savaient ce qui se passait. Ils savaient de quoi ou de qui ils avaient besoin. Il fallait des siècles pour connaître sa misère et pour connaître la grandeur du bienfait. N'est-ce pas? Et puis alors il fallait qu'il fût préparé, ce Messie. Préparé par les prophètes. Préparé par une certaine vie. Quand on va vivre un grand événement, on fait une retraite. Communion solennelle, quand j'ai été ordonné, j'ai fait autant de retraites que j'ai reçues d'ordination, etc. Quand on se marie, on devrait faire une petite retraite avant. Eh bien, avant de recevoir le Messie, il fallait une longue préparation, une longue retraite. Remarquez bien que ceux qui ont cueilli les fruits de cette retraite, tous les fruits, se sont trouvés un bien petit nombre, un bien petit reste. Mais ils étaient là. Au moment où le Messie est venu, eh bien, ils étaient là. Marie, Joseph, les apôtres, Jean-Baptiste, Élisabeth,
Zacharie, etc. Ils étaient là.
Pouvait-on se sauver avant la rédemption ? Il nous reste 3 minutes. Oui, en vertu des mérites du Christ. On parle couramment des justes de l'Ancienne Loi, des justes de l'Ancien Testament. Mais ces justes qui ont été sauvés ne l'ont été que par le Christ, en prévision de ses mérites. De même qu'on dit que l'Immaculée Conception, c'est un privilège qui a été acquis à Marie par son fils Jésus, alors que Jésus n'était pas encore au monde. Par avance. Et c'est ainsi. Il n'y a pas d'ailleurs que des Juifs ou des Hébreux qui se sont trouvés sauvés. Nous retrouverons peut-être là-haut, je ne sais pas moi, Virgile. Nous aurons une belle conversation avec Virgile. Il nous faudra peut-être encaisser Cicéron. Je ne sais pas. Hein. Mais toujours par le Christ. J'occupe la dernière minute en vous donnant rapidement une liste de ce qu'on appelle les types du Messie dans l'Ancien Testament. Les types du Messie, ce sont ou des personnages ou des événements. Ils sont prophétiques en eux-mêmes, sans trop le savoir ou sans le savoir du tout, s'il s'agit d'événements. Par exemple, Isaac gravissant la pente du mont Moria avec son fagot sur l'épaule, c'est un type du Christ qui monte le calvaire. Moïse, qui fait passer la mer rouge à pied sec à son peuple, qu'il tire de la servitude et qui le conduit en terre de promission, c'est aussi un type du Christ, qui nous fait passer par l'eau du baptême, qui nous arrache à la terre de péché et qui nous conduit vers le ciel. Qui encore ? David. David. David dans son péché. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas péché, mais il a expié comme s'il avait péché. Il a porté le péché du monde. David, non pas dans son péché finalement, mais dans sa contrition, dans sa pénitence, est un type du Christ. Il est aussi un type du Christ en ce qu'il est de Bethléem, en ce qu'il est terroir, en ce qu'il a été berger. En voilà des choses, en voilà des aspects. Il faut savoir cela parce que si vous ne le savez pas, vous ne comprendrez pas la liturgie. Qui sans cesse fait allusion à ces affaires-là. Le prophète Jonas est un type du Messie également, c'est notre Seigneur qui nous le signale, notre Seigneur lui-même. Jonas resta 3 jours dans le ventre du gros poisson et en ressortit ensuite. Notre Seigneur nous dit que c'est un type de la résurrection. Et il y en a d'autres que j'oublie et d'autres que je veux oublier car il est l'heure. J'ai des photographies du pape.